Alors, c'est un plaisir, n'est-ce pas, d'entendre encore et encore l'évangile, la bonne nouvelle de comment on est accueillis comme des enfants de Dieu bien-aimé, des fils et des filles du Très-Haut par Jésus-Christ, par la naissance d'un petit enfant. On est en train de se rappeler ce Noël des promesses. Dieu a fait des promesses. Alors, c'est magnifique quand on entend des promesses, c'est encore plus magnifique, n'est-ce pas, quand ces promesses sont tenues, quand la parole qui est donnée, elle s'accomplit véritablement. Quelle déception autrement ça serait, n'est-ce pas? Alors on va lire ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1 et les versets 26 à 56. On va voir l'histoire de celle qui ne devait pas avoir d'enfant. Dans un sens, en tout cas pas comme ça, pas aussi vite, pas de cette manière-là. On va parler donc de l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Et donc on est dans l'évangile de Luc. Luc, comme vous vous rappelez peut-être il y a 15 jours, il écrit son évangile pour que tous ceux qui le lisent, tous ceux en particulier qui ont mis leur confiance en Jésus, soient certains des enseignements qu'ils ont reçus, qu'ils puissent véritablement construire leur vie entière sur cet évangile, sur ces paroles, sur ces actes que Dieu a posés dans l'histoire. Alors ouvrons le livre de Dieu, la Bible, et lisons les paroles et voyons ce que Dieu a fait déjà pour nous. Donc Luc chapitre 1, versets 26 à 56. Le sixième mois, c'est-à-dire on est 6 mois après que Élisabeth est devenue enceinte. D'accord? Donc Élisabeth est enceinte depuis 6 mois maintenant. Et voilà, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. Et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. On va prier. Seigneur Dieu, garde-nous de l'orgueil, garde-nous de nous élever nous-mêmes, et plutôt aide-nous à faire comme Marie, à rester dans l'humilité et juste à se contempler, ébahi, époustouflé. Seigneur, combien toi, le Dieu grand, puissant, tout puissant, tu as fait des choses merveilleuses en notre faveur, par grâce, de façon purement imméritée pour ce qui nous concerne. Seigneur, aide-nous ce matin à capter encore cet évangile par lequel nous vivons et que notre espérance soit réchauffée pour toutes les paroles dont nous attendons encore les accomplissements. Seigneur, c'est ma prière, c'est notre prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez vu, on prend le récit juste après l'annonce faite à Zacharie et Élisabeth du précurseur de Jésus, Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète de l'ancienne alliance, qui vient annoncer la venue de Jésus, qui vient préparer le peuple pour Jésus. Et puis à la fin, le dernier verset, il nous renvoie sur ce qu'on avait vu aussi il y a 15 jours, vers la naissance effectivement de Jean-Baptiste et le cantique de Zacharie. Alors entre les deux, il y a cette insertion en ce qui concerne l'histoire de Marie, la naissance de Jésus, l'annonce de sa naissance en tout cas. Et on va voir que Dieu donc est avec les humbles. On va voir que Noël, c'est la fin des ombres et le commencement de la réalité. On va pouvoir se réjouir, et tu pourras te réjouir si tu crois, car tout ce que Dieu a dit aussi s'accomplira. Et puis enfin, on verra que la promesse, c'est un grand retournement de situation. Et je sais pas comment tu es ce matin, mais en tout cas, si tu es découragé, si tu ne te sens pas à la hauteur, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est pour toi. Parce qu'il y aura un grand changement qui commence déjà aujourd'hui, mais qui sera manifesté encore plus clairement au retour de Jésus. Vous voyez ça? Vous avez senti ça dans le texte qu'on a lu ensemble ce matin? Dieu est avec les humbles. On commence le récit et ça se passe assez simplement, n'est-ce pas? On est avec une jeune femme ordinaire, simple, dans une petite bourgade de province. On est tout au nord du pays d'Israël, dans la Galilée, donc c'est près du lac de Galilée, hein, qui porte le même nom. On n'est pas loin de la Phénicie, pas loin de la Syrie, tout là-haut. C'est le pays en fait où il y a beaucoup d'immigrés. Il y a des gens de toute origine. À cause des invasions successives, etc. C'était une région où il y a un mélange de populations. Et d'ailleurs, les gens du sud du pays qui ont, entre guillemets, gardé un peu plus d'homogénéité dans l'ethnicité, d'accord, juive et hébreu, hébraïque, ils considèrent mal ces gens-là du nord du pays. Pour eux, qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est rien du tout. Et vous avez peut-être cet écho, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth, là, de là-haut? Ben voilà, Marie est dans son appart à Nazareth. Elle va qu'à ses occupations, c'est la vie toute simple, la vie normale. On n'est pas à Jérusalem, on n'est pas au temple, on n'est pas au cœur de la vie religieuse ou de la vie politique de l'époque. Et pourtant, c'est là que Dieu envoie l'ange Gabriel pour dire à une jeune femme, toute simple, pieuse, on le voit, qui respecte Dieu, qui honore Dieu, qui connaît les paroles de Dieu, mais une femme toute ordinaire, comme il y en a ici ce matin. Et comme, en fait, nous sommes tous ce matin, des êtres humains, hommes ou femmes, tout simples, tout ordinaires. C'est dans ce contexte-là que Dieu envoie l'ange Gabriel pour dire, Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Dieu est avec les humbles. Dieu est fidèle à ses promesses, à la descendance d'Abraham physique, au peuple d'Israël. C'est bien chez une jeune femme juive qu'il arrive, mais déjà, il a en vue tous ceux qui sont humbles. Il y a des autres conditions pour attirer l'attention de Dieu. Et c'est pas parce qu'on est brillant, mais c'est parce qu'on est humble, parce qu'on comprend qu'on n'a rien en nos mains pour justement pouvoir plaire à Dieu. L'ange vient et lui dit à Marie, une grâce t'a été faite. Et cette grâce, c'est que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec Marie. Et bientôt, elle va le vivre même dans sa chair. C'est un peu dingue, n'est-ce pas, d'y penser que Dieu, le Fils, éternellement existant, coexistant avec le Père, s'est incarné. Et donc, la personne du Fils était dans le ventre de Marie, en train de grandir pendant 9 mois. Et Marie a eu cette grâce-là de porter le Fils de Dieu incarné, même quand il était qu'un petit embryon, quelques petites cellules, et qu'il a grandi, qu'il est né. Mais l'enfant qu'elle va porter est pas simplement Jésus, Dieu qui sauve, il est aussi Emmanuel. Et donc c'est pas juste que c'est Dieu qui est avec Marie de façon toute spéciale et juste pour elle. Bien sûr, elle est bénie de façon spéciale, mais c'est aussi son enfant et aussi Emmanuel. Dieu est avec nous tous. Dieu est avec tous ceux qui sont humbles, ceux qui espèrent dans son salut, ceux qui l'attendent, ceux qui comptent pas sur leur propre force pour vivre, mais qui se disent, si Dieu n'intervient pas, on est foutu. Et on désire qu'il intervienne, on veut le voir avec nous. Dieu est avec les humbles. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que Dieu promet aux humbles? Il promet que Noël, c'est la fin des ombres et le commencement de la réalité. Voyez avec moi versets 29 à 33. Marie, elle est surprise par la présence de l'ange. Elle est perplexe quand elle entend les paroles de sa salutation. Comme pour Zacharie et pour beaucoup d'autres cas dans la Bible, où Dieu parle directement ou au travers d'un ange. Ça laisse pas de marbre, hein. Ça fait une drôle d'impression quand on est face à un tel être et qu'on reçoit un tel message. Certains s'écroulent, beaucoup tremblent et sont troublés. Et toujours, quand Dieu vient pour une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il dit, n'ayez pas peur. Et il dit à Marie, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu nous rassure. Quand il vient pour être avec les humbles, c'est pas pour les enfoncer encore plus, c'est pas pour leur faire sentir encore plus leur humilité. Ce n'est pas pour les condamner encore plus. Mais c'est parce que ils ont trouvé grâce à ses yeux. Ne crains pas, toi non plus ce matin. Parce que Noël, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle époustouflante, mais juste magnifique. C'est ce qui a été attendu depuis des mois et des années, des centaines, des milliers d'années même, dans le cas de l'humanité, dans le cas du peuple d'Israël. Noël, c'est la fin des ombres et le commencement de la réalité. C'est la fin des ombres et le commencement de la vraie vie. L'ange ne vient pas pour dire « Ne crains pas, je vais te rappeler, tu sais, toutes les promesses que Dieu a déjà dites et rappelées et rappelées dans le passé. » L'ange ne vient pas redire une promesse, il vient dire « C'est maintenant, ça y est, ça arrive, c'est la fin des promesses, c'est le temps de l'accomplissement des promesses. » Et peut-être quand vous avez lu, vous avez votre cerveau qui s'est allumé, qui dit « Tiens, les paroles qu'il dit à Marie, je semble les avoir déjà lues, mais un peu autrement. Est-ce que vous avez vu ça? Ce n'est pas, vous aurez un signe, Marie, et tu verras, un jour dans ta vie, il y aura une vierge qui va être enceinte. C'est pas ça que l'ange y dit. Il dit, non, maintenant, c'est toi. Tu vas être enceinte. Et il reprend comme les mêmes mots de Ésaïe au chapitre 7. Sauf que c'est pas une vierge qui va arriver. C'est toi maintenant, Marie. Tu vas être enceinte. Tu vas mettre au monde un fils. Et l'ange explique alors quelle est la grâce qui est faite à Marie. Et c'est plein de références à Ésaïe au chapitre 7. On peut juste relire ça ensemble et voyez comment maintenant il ne s'agit plus d'attendre l'accomplissement de ces choses-là, mais plutôt que ces choses-là sont bel et bien en train d'arriver maintenant. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, vous le connaissez ? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Voilà cette parole qui est en train d'arriver. C'est plein de références à l'Ancien Testament, cette parole de l'ange, parce que dans Ésaïe 8, par exemple, on voit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, verset 23, là où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Et en fait, ça, c'est la Galilée. C'est exactement là où elle se trouve en ce moment même, Marie de Nazareth. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 9, encore, verset 5. Car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça 700 ans avant. Mais maintenant, voilà l'ange qui dit, c'est ça, c'est en train d'arriver maintenant. Le fils que tu vas porter dans ton ventre, il suffit juste d'attendre 9 mois maintenant, mais il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Voyez l'écho ici, avec Ésaïe au chapitre 9. Encore des échos avec le psaume 45, par exemple. Si vous n'êtes pas obligé de prendre ces passages, mais écoutez, ton trône, ô Dieu, et pour toujours, à jamais. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a conféré une onction d'huile de gaieté, de préférence à tes compagnons. Et déjà, dans le psaume 45, on voit qu'il y a comme deux dieux, mais qui sont en fait un seul. Le Père et le Fils. Et le Fils reçoit le règne et l'autorité sur toutes les nations, sur tout l'univers. Et il va conduire l'univers avec la justice et la droiture. Il est Dieu et il est un homme, un descendant de David. Encore ce passage dans 2 Samuel au chapitre 7, au verset 12. Dieu qui parle à David, qui lui fait une promesse, quand tes jours, David, seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire décédé, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père et lui, il sera mon fils. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et puis au verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Et voyez le verset 33 dans notre passage de Luc ce matin, son règne n'aura pas de fin, il va durer toujours. On pourrait lire encore Daniel 7, 13 et 14. Le voilà, l'accomplissement de toutes ces promesses. Noël, c'est la fin des ombres et le commencement de la réalité. Il y a une petite histoire qu'on aime se raconter dans notre famille, un souvenir d'enfance où on était pré-ado et peut-être mon frère était un peu ado, voilà, et on découvrait les joies de la haute montagne, des balades, des randonnées, et on avait commencé doucement, mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on allait dans les Alpes, on s'essayait à des balades un peu plus lointaines, plus longues, plus hautes. Et un jour, donc, on a décidé d'aller au col de la Croix de Fer dans les Alpes. Et le défi, c'était d'aller, d'approcher un glacier. La première fois qu'on allait faire ça. Et puis, mon frère, bon, je sais pas, ce jour-là, peut-être il était pas de super bonne humeur, ou en tout cas, il avait pas trop envie de faire cette randonnée. Il a dit, mais pourquoi monter là-haut? Pourquoi se donner toute cette peine? On pourrait juste acheter des cartes postales au village en bas, hein, boire le beau glacier, et on n'a pas besoin de faire toute cette route. Et il a un peu râlé sur la montée. Mais quand on est arrivé là-haut, une fois qu'on a mis les pieds sur le glacier, qu'on a senti la petite neige craquouiller là sous nos semelles, qu'on a vu des crevasses dans le glacier, des choses qu'on avait entendu parler mais on n'avait jamais vu de nos yeux. Quand on a vu la neige en plein été, quand on a pu la toucher, quand on a vu les petites découpes sur le haut de la glace, qu'on a vu les reflets bleus et blancs sur le glacier, quand on a vu le panorama sublime autour de nous, quand on a vu des équipes encordées qui descendaient ou qui partaient pour un refuge encore plus loin, qui donnaient envie d'explorer encore davantage ce glacier. C'était comme arriver sur une terre inconnue et magnifique. C'était bien mieux qu'une carte postale. Et le premier qui était sur le glacier, qui courait partout comme un fou, qui voulait tout regarder, c'était mon frère, qui pensait qu'une carte postale, ça aurait été suffisant. Noël, c'est la fin des cartes postales. Vous pouvez envoyer des vœux pour vos amis. Mais c'est la fin des cartes postales pour nous, parce que nous voyons la réalité maintenant. Maintenant, c'est le vrai, c'est la vraie vie. Fin des ombres, début de la nouvelle création. Maintenant, le règne de Dieu est venu. Alors, heureuse es-tu si tu crois, car tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Heureux es-tu si tu crois, car tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Vous voyez ça dans les versets 34 à 45. Parce que cette naissance, donc, de Jésus, elle est plus qu'un miracle. Dans un sens, n'est-ce pas? Tout nouveau-né, tout bébé, c'est une sorte de miracle. Parce que c'est incroyable de réaliser un homme et une femme qui donc peuvent concevoir la vie comme ça. Bien sûr, c'est Dieu qui intervient, bien sûr, c'est une grâce qui est donnée par Dieu. Mais en même temps, quelle part nous est donnée, quelle part nous est laissée, n'est-ce pas, dans la naissance d'un enfant? Toute naissance, elle porte un peu un aspect miraculeux, un aspect, une grâce qui nous est faite de Dieu. Puis on peut réfléchir encore, mais il y a eu quand même des naissances un peu plus miraculeuses encore. Pense à Abraham. Rappelle-toi quel âge il avait, Abraham, quand il a donné naissance. Il était pas loin des 100 ans, n'est-ce pas? Alors là, ça reste encore dans le domaine de la physique. C'est bien un homme et une femme, c'est Abraham qui a été vers Sarah, Sarah vers Abraham. D'accord? Et ils ont eu un enfant, mais c'est vraiment, wow, les extrémités des limites, des lois naturelles fixées par Dieu. Et Dieu a fait grâce, et Dieu, comme il avait promis, a donné cet enfant à Abraham et Sarah. Et tu peux penser à Anne et tout un tas d'autres personnes encore dans l'Ancien Testament. Mais ici, ça nous explose le cerveau, c'est en dehors totalement des limites des lois naturelles fixées par Dieu. C'est une nouvelle création. Et dans ce sens-là, c'est un miracle qui dépasse toutes les autres naissances. Voilà, Marie qui se questionne, comment cela se fera-t-il que je tombe enceinte puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et ayez en tête Genèse au chapitre 1. Au début de la création du monde, la terre était un chaos, elle était informe et vide, et l'Esprit de Dieu tournoyait. Il était prêt à la première parole de Dieu, à mettre en œuvre cette parole, à la faire devenir réalité. La même chose ici, le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. C'est un nouvel Adam qui est annoncé ici par l'ange. Le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le premier fils, Adam, avait failli dans sa mission. S'était détourné de son père, avait rejeté l'image de son père. Mais le Saint-Enfant qui va naître, il va rester. Il est et il va rester le Fils parfait de Dieu. Et avec lui, il y a la promesse non seulement d'un nouvel Adam, mais de toute une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité nombreuse, dont toi et moi, on peut faire partie. Et peut-être c'est ton cas déjà ce matin, tu fais partie, grâce à Jésus, dès maintenant, de la nouvelle création. Les ombres sont passées dans ta vie. L'ancien est mort et tu es une nouvelle créature par Jésus. C'est possible parce qu'il y a eu le premier Noël, parce que l'enfant qui naît annonce la fin des ombres. Et si tu crois, ça s'accomplit en toi. Un nouvel Adam, bientôt une nouvelle humanité nombreuse. Et on va lire la reste de l'évangile, ou lisez le reste de l'évangile, lisez les actes des apôtres. Voyez combien ce nouveau peuple est en train de surgir dans l'ancienne création. Et sous le règne de Dieu, parce que c'est un enfant qui va être saint, qui va être à part, qui va régner sur la famille de Jacob. Donc cette nouvelle humanité va être au bénéfice d'une relation spéciale avec Dieu, une relation de bénédiction. Et bientôt aussi, il y aura un lieu saint, la nouvelle création, le cosmos complètement renouvelé, complètement changé, recréé, dans lequel on pourra être avec Dieu. Et si vous êtes attentif, et si vous vous rappelez, Genèse chapitre 12, c'est l'évangile déjà qui était annoncé à Abraham. Et Abraham, quand il a entendu ça, il s'est réjoui. On peut lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jean, chapitre 8. Verset 55. Jésus qui parle aux pharisiens et qui leur dit « Vous ne le connaissez pas, le Père. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. » Il est bien sûr en train d'affirmer sa divinité, tout en étant dans son humanité. Et il est en train de dire que Abraham, lui aussi, avait entendu ces mêmes évangiles que nous entendons ce matin. Et lui aussi s'est réjoui. Il était heureux parce qu'il a cru. Et parce qu'il a cru les paroles de Dieu. Toutes ces paroles de Dieu se sont accomplies. C'est pas parce qu'il a cru, mais parce qu'il a bien fait de croire. Parce que tout ce que Dieu a dit s'accomplit et s'accomplira. Rien n'est impossible à Dieu. Rien de ce que Dieu dit n'est impossible. Dieu n'est pas empêché de dire et de faire ce qu'il a décidé. Et voyez Marie qui, de nouveau avec beaucoup de humilité, dit « Je suis la servante du Seigneur. » Que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Et voyez Élisabeth qui dit, heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et toi, est-ce que tu crois les promesses du Seigneur? Est-ce que tu crois que l'ancien est passé et que voilà, toutes choses sont faites nouvelles dans ta vie? Est-ce que tu désires encore voir la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accomplir? Heureuse es-tu, alors si c'est ton cas, heureux es-tu si tu crois, car tout ce que Dieu a dit va s'accomplir dans sa vie, dans ta vie. Toujours au chapitre 8, juste un tout petit peu plus haut de l'évangile de Jean, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Donc Jésus a autorité pour dire les paroles qui mènent à la vie. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu le crois, lui, le Fils de Dieu. Parce que tout ce qu'il a dit s'accomplira. Et en particulier, regardez à la naissance de Jésus, c'est aussi, il y a sa première venue, c'est considérer sa deuxième venue, son retour. Et que, Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Voyez que écouter les paroles de Dieu, mettre sa confiance en Dieu, c'est la source de la joie. Et ça nous pousse à encore plus d'humilité. Et juste pour cette partie-là, je vais terminer en regardant Élisabeth au verset 41. Quand elle entend la salutation de Marie, que son enfant remue brusquement en elle, elle est remplie de l'Esprit-Saint, elle s'écrie d'une voix forte des paroles de bénédiction, de louange à Dieu. C'est ça que l'Esprit de Dieu fait en nous, n'est-ce pas? Il nous tourne les regards vers Dieu. Et au lieu de considérer elle-même, au lieu de dire « Waouh, je suis bénie parce que la mère de mon Seigneur est venue me voir », Elle est plutôt réjouie pour les autres. Elle est réjouie pour Marie. Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Le Saint-Esprit tourne les regards vers Jésus, n'est-ce pas? Et après, il nous fait voir notre position où on est désespérément en besoin de lui, de Jésus. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? N'est-ce pas aussi une source de joie pour nous d'être heureux ou heureuse? De considérer notre abaissement et de voir à quel point Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils pour notre salut. Alors, cette promesse, on peut continuer de la lire au verset 46 à 56 et on peut voir un peu plus en détail de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Parce que Marie aussi, elle se réjouit. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Et voyez, au verset 49 et 50, elle donne trois bonnes raisons pour lesquelles elle loue le Seigneur. Est-ce que tu peux les voir aussi avec moi? Elle dit, voici désormais toutes les générations me diront heureuse parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour nous, n'est-ce pas? Nous pouvons aussi remercier de la même manière le Seigneur. En fait, oui, la bénédiction qui est faite à Marie de porter Jésus dans son ventre est juste quelque chose qui est plus grand encore que ça. La toute-puissance de Dieu pour elle, c'est aussi la toute-puissance de Dieu pour nous. Et en fait, je voudrais juste partager un petit passage. Je pensais le laisser de côté, mais je pense que c'est le bon moment en fait de le faire maintenant. Vous voyez, on pourrait être tenté de voir Marie comme ayant pour elle toute seule une grâce tout à fait particulière. Et je nie pas qu'elle a bien porté Jésus dans son ventre. Mais un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, il y a aussi une femme qui s'est adressée à Jésus, qui a dit à Jésus du milieu de la foule, c'est au chapitre 11, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Et Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et vous voyez ce que Jésus est en train de faire en corrigeant les paroles de cette femme. Jésus est en train de défendre la vraie bénédiction de Marie. Et il nous garde, nous aussi, de mettre Marie sur un piédestal et d'être tenté de l'idolâtrie vis-à-vis de Marie. Gabriel a dit à Marie qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Et comme on l'a déjà dit, c'est certain qu'avoir la personne du Fils dans son ventre, dans son humanité, si fragile, d'en prendre soin, c'est vraiment quelque chose qui était incroyable. Mais ce n'était pas la plus grande des faveurs accordées à Marie. Bien qu'elle ait été appelée à quelque chose d'unique, la grâce qui lui est faite par-dessus cela est semblable à la façon dont Dieu veut bénir tous ses enfants. Marie n'était pas sans péché. Jésus, oui, il est le seul être humain qui est sans péché, qui n'a jamais connu le péché. Marie était pécheresse. Elle méritait tout comme nous la juste colère de Dieu à cause de sa nature déchue. C'est donc bien une grâce qui est faite à Marie, quelque chose de non mérité. Et le cadeau dépasse loin, de loin, la faute. Parce que la plus grande grâce faite à Marie n'était pas d'être la mère du Fils de Dieu dans son humanité, mais que ce même enfant qu'elle était en train de porter serait celui-là même qui la sauverait de son péché. Et cette bénédiction, cette grâce est donnée à tous ceux qui croient en Jésus. Et en regardant dans Matthieu, on voit aussi que Jésus n'est pas venu simplement pour sauver Marie, n'est-ce pas, mais pour sauver tout un peuple. Alors quand Marie s'exclame « Je loue le Seigneur pour la grandeur et quand je vois sa toute puissance, il a fait des grandes choses pour moi », nous aussi, on peut se réjouir. Parce que c'est la même grâce qui nous est accordée. Et la toute puissance de Dieu, elle est au service de sa sainteté. Vous voyez, c'est la deuxième raison au verset 49. Son nom est saint. Dieu est à part de toute créature. Dieu est à part parce qu'il est absolument pur et sans péché. Dieu est saint. Et sa toute puissance rencontre sa sainteté. Et voilà que, alors, sa bonté se révèle. Elle s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Et la manière la plus claire de voir et la toute puissance de Dieu, et la sainteté de Dieu, et la bonté de Dieu, c'est déjà dans la naissance de cet enfant, dans le don de cet enfant. Mais ça nous mène aussi à la croix. C'est là que nous voyons cela. Dieu a donné son Fils, Jésus. Il a porté sur lui les fautes de nous tous. Il a réglé ainsi notre problème vis-à-vis de la sainteté de Dieu que nous ne pouvions pas atteindre par nous-mêmes. Lui, dans sa grâce, il a permis que nous puissions redevenir saints. Et Dieu a accepté ce sacrifice de Christ. Et comme il l'a accepté, il lui a redonné la vie, il a ressuscité son Fils d'entre les morts. La toute puissance de Dieu a été à l'œuvre pour agréer ce sacrifice. Alors pour nous, qui étions indignes d'une telle chose, nous pouvons constater la bonté de Dieu. Et cette bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Voyez ce grand retournement de situation. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et souvent, les deux choses vont ensemble, n'est-ce pas? On a des biens matériels, on a des capacités naturelles, et avec, souvent, viennent les pensées orgueilleuses. On estime qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on va s'en sortir par soi-même. On peut même mépriser ceux qui sont humbles. Et faire ça, c'est oublier qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu tout-puissant, saint, juste et bon. Et voilà que Dieu rétablit les choses. Dieu balaye ceux qui ont ces pensées orgueilleuses, ceux qui s'élèvent contre lui, qui veulent se mettre à la place eux-mêmes de Dieu. Il renverse cela, mais il élève les humbles. Il rassasie de bien les affamés. Ça fait peut-être écho chez vous, n'est-ce pas? Ceux qui ont faim et soif de la justice. Est-ce que tu as faim, soif de la justice dans ta propre vie? Parce que tu sais, toutes les fois où tu es à côté de la plaque, où tu ne respectes pas les lois et les commandements, les paroles justes et bonnes de Dieu. Peut-être tu as faim et soif aussi parce que tu regardes autour de toi dans le monde et il n'y a rien qui tourne rond. Et tu aimerais tellement que ce monde soit plein de la justice de Dieu. Ben, de nouveau, heureux es-tu si tu as faim et soif de la justice parce que tu seras rassasié. Et ça commence, et c'est vrai cela, par la naissance de Jésus au premier Noël. Voyez, de nouveau, comme pour Zacharie, c'est comme si c'était déjà fait. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches des mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur. Il y aura un grand retournement de situation qui a commencé déjà avec le premier Noël, qui a culminé à Pâques, c'est scellé, c'est attesté, c'est gravé dans le marbre si vous voulez, et plus personne ne peut s'opposer à ça. Et au retour du Seigneur, ce sera visible pour tout le monde. Alors, ce Noël, quelle est ton attente pour l'accomplissement total et final de la nouvelle création? Quelle est ton attente pour voir cette nouvelle création, pour désirer y vivre avec le Fils comme Seigneur et comme Roi? C'est le moment, n'est-ce pas, pendant cet avant, de réfléchir à la perspective pour notre vie. Quelle attente pour le règne de Dieu dans ta vie? Pour les domaines où il y a des résistances et où tu le sais, comment est-ce que tu désires t'humilier devant Dieu et voir la délivrance qui vient de sa part? Ça s'est rendu possible par la mort et la résurrection de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Et si tu te sens un peu étouffé et désespéré de ne pas t'en sortir dans tes luttes, fais confiance à Dieu, crois à sa parole. Tout ce qu'il a dit va s'accomplir. On a lu cette semaine, si vous étiez là au groupe de partage, un passage dans Romains 8 qui nous parle d'impossibilité. Souvent, on est confronté à ces impossibilités dans notre vie. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens et dit « Car ce qui était impossible à la loi, donc le fait d'entendre les justes exigences de Dieu, ne nous permettait pas de vivre en accord avec ces exigences. Ce n'est pas parce qu'on les savait qu'on arrivait à le faire. Parce que la nature humaine, pécheresse, la rendait impuissante, incapable de faire ce que Dieu demande. Mais ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. » Et cette parole-là nous parle de la venue de Jésus. Voilà comment ça commence avec le premier Noël. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu as une attente pour de grands bouleversements dans ta vie à la suite de Christ ton roi? Pas parce que tu vas décider de tout changer demain par toi-même, mais parce que, conduit par son esprit, tu peux véritablement t'attendre à voir des choses bouger, changer dans ta vie. L'avant, c'est une bonne période pour se mettre devant Dieu, pour reconnaître que nous n'avons pas les moyens en nous-mêmes, reconnaître notre humilité et se réjouir parce que Dieu est avec les humbles. Noël, c'est la bonne période pour se rassurer que c'est la fin des ombres, que la vraie vie a commencé, que la nouvelle création a déjà fait irruption dans l'ancienne, et que nous pouvons déjà commencer à goûter et vivre le bon règne de Dieu en étant réconciliés avec lui par Jésus. Noël, c'est le bon moment pour la joie de dire « Je crois dans les paroles de Dieu et je sais que tout ce qu'il a dit va s'accomplir. » Et c'est l'espérance, une espérance certaine, une espérance valable, une espérance réelle de voir des grands bouleversements dans ta vie. Et dans le monde. Pas pour être plus riche, pas pour une meilleure santé, mais pour être de plus en plus conforme à l'image de Christ, pour être de plus en plus transformé dans ton cœur, dans ton âme, à la ressemblance du Fils parfait de Dieu. Que Dieu nous aide et nous bénisse pendant cette période de Noël. Amen.